Cette semaine, l'héroïne de la presse a 150 ans et elle se prénomme Alice. C'est bien évidemment l'Alice du Pays des Merveilles dont il s'agit, celle qui fait la une du Figaro littéraire et du Monde des Livres. On peut s'interroger largement sur ce que cette œuvre apporte et pourquoi elle est aussi intemporelle. D'abord parce que c'est l'héroïne du Salon de Montreuil. On va vous répondre, et que vos suppléments littéraires, comme pour la bande dessinée ou les journées philosophiques, celles du roman, etc., du livre historique à Blois, connaissent une temporalité cyclique. Cette semaine, c'est donc le salon du livre de la jeunesse. Ensuite, sans doute aussi à cause de la particularité des liens qui unissaient créateurs et créatures. Il existe bien une Alice, nous disent François Rivière dans Le Figaro et Florence Noiville dans Le Monde, et les metteurs en page de nous montrer un des clichés d'Alice Liddell vers 1859, déguisée en mendiante et légèrement dénudée, photographiée par Lewis Carroll. Qu'on l'aime ou non, dit fort justement Florence Noiville, il semble qu'il faille s'y confronter à cette figure d'Alice un jour ou l'autre quand on est illustrateur. Ce que d'autres commentateurs soulignent, c'est la très grande proximité de Charles Dodgson, avec alias Lewis Carroll, avec cette petite fille à qui il raconte des histoires merveilleuses, et James Matthew Barney qui, 50 ans plus tard, raconte au fils de son ami Sylvia Llewyn Davis celle de Peter Pan, le garçon qui ne voulait pas grandir. Il y a ici un certain nombre d'auteurs anglais qui se passionnent pour à la fois la fantasy et le monde de la jeunesse ou de l'enfance. Sans se limiter cependant à ces figures tutélaires qui génèrent sans cesse rééditions et nouvelles illustrations, comme celles que consacre par exemple Rebecca d'Outremer à Alice aux éditions Gauthier-Langros, les journalistes s'intéressent à d'autres titres. Françoise D'Argent pour Le Figaro, après avoir signalé que la BNF sort de ses trésors des albums jeunesse dans leur robe d'époque, nous oriente vers des choix plus contemporains aux titres qui sollicitent parfois nos imaginations d'adultes, comme L'ours qui n'était pas là, Noreen Laurie, et Wolf Erlbruch aux éditions La Joie de lire, ou le plus ambigu Charles amoureux, qu'on pourrait lire comme Charles, amoureux d'une princesse, par exemple, au seuil jeunesse. Le Monde des Livres oriente sa page jeunesse, pour sa part, vers d'autres livres encore, par exemple ce « Eux, c'est nous » dans lequel 45 éditeurs et Daniel Pénac offrent un livre consacré aux réfugiés syriens dans lequel ils veulent réaffirmer notre solidarité. R pour réfugiés, E pour étrangers, F pour frontières, voici quelques-unes des titres, des entrées pardon, de chapitres. Les bénéfices sont reversés aux migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Un article de fond de Marie Pavlenko dans Le Monde des Livres évoque la lecture des contes et la volonté absolue de croire à ce qu'ils racontent chez les enfants et les adolescents. C'est pour de vrai ou pour de faux? Cette question éternelle de l'enfant, eh bien c'est le thème central du 31e, de la 31e édition du Salon du Livre de Jeunesse de Saint-Denis, nous dit l'écrivain. Cette dialectique est consubstantielle au pacte de lecture, ajoutons qu'elle en augmente la beauté, soulignant le lien puissant qu'il fait naître entre un auteur et son lecteur. Au passage, nous soulignons, nous, pour notre part, que ce salon se déroule à Saint-Denis. À Saint-Denis, non pacte. Bien entendu, il est aussi question de littérature pour les grands. Cette semaine, nous n'allons pas nous y étendre avec Jan Kalman Stefansson, qui, dès le Libé des livres de samedi, étalait son titre, qui ressemble un peu à un titre pour enfants. D'ailleurs, « Les poissons n'ont pas de pieds », voilà le titre de ce roman islandais qui évoque la pêche, mais aussi toutes les relations de couple possibles et qui ressort bien de l'univers des grands. Idem pour Onjaki et son titre « Lait transparent ». On a beau lui dire que, c'est Gladys Mariva dans Le Monde qui le dit, que ses romans sont truffés de merveilleux, il persiste à dire qu'il ne croit pas au réalisme magique. Le réalisme magique, c'était un courant qui tentèrent de remettre du merveilleux dans la littérature en Amérique du Sud. Et c'est du réalisme réel, dit-il. Enfin, pour cette semaine dévolue au conte, cette histoire que nous raconte Éric Chevillard, qui ne manque pas d'humour dans le fond des livres de cette semaine. Allons-y. Il était une fois un vieux sage qui n'était pas tout à fait assez vieux pour être tout à fait sage. Par suite de quelques maudits sortilèges, sa barbe blanche lui poussait à l'intérieur de la bouche et cela rendait sa parole bien confuse, nous dit-il. Qui est-ce ? une partie de son auditoire l'adore, une partie de son auditoire le déteste, et le hasard du chemin et de l'heure lui fit justement rencontrer un elfe à voix de sirène qui touchait aussi du pinceau, et dont les imprévisibles aquarelles cernaient parfaitement son propos vague et sans objet. Il s'agit du texte « L'étoile polaire » de Michel Onfray, illustré par Mylène Farmer. Alors voilà, ça ne plaît pas tout à fait à Monsieur Chevillard qui dit « Que penser ?» Il est vrai qu'un conte positiviste est une chose inconcevable, une contradiction dans les termes. Il faut se laisser aller un peu à croire aux chimères, sinon ce n'est pas du jeu. Mais franchement, dit Éric Chevillard, le miracle des étoiles mortes qui scintillent encore ennuyait déjà la grand-mère de Copernic. Il en est question dans le livre. La métaphore est usée, morte elle aussi, elle n'aimait plus le plus pâle rayon de poésie. Voilà, il s'agit un peu quand même d'une exécution parfois très précisément argumentée par Éric Chevillard, qui nous rappelle que Michel Onfray n'aime pas beaucoup Freud, mais il ne recule pas devant les symboles. Le psychanalyste en charge de son cas va avoir besoin de tout le trousseau de clés des songes, une femme enceinte, d'un arbre, et même un arbre-monde, un cheval à huit jambes, dont le cavalier sait lire dans les pierres un bateau de feu. Voilà. À la fin, on a une sorte d'exécution. Tout cela est bien peu nietzschéen. Michel Onfray finira-t-il prêcheur évangéliste ? Le fils, dit-il, c'est une citation, vit l'âme du père se faufiler dans l'éther où il irait un jour le retrouver. Amen, conclut Éric Chevillard, et nous conclurons, sur le fait que le conte reste, malgré tout, un univers d'importance pour les grands.